Vous êtes bien sur RFI, c'est le journal. Le soleil se lève à Kiev où il est 5h, il s'est couché à Mexico où il est 20h.
Théo Renaudon.
Nouvelle nuit d'angoisse à Kiev, une dizaine de drones russes ont visé la ville au lendemain d'une attaque qui a fait 15 blessés. Les profs mexicains se mobilisent pour de meilleures conditions de travail. Ils ont organisé des opérations coup de poing toute la semaine. Et puis c'est un réalisateur qui tient tête à la République islamique. L'Iranien Jafar Panahi remporte la palme d'or du festival de Cannes. Il compte coûte que coûte rentrer en Iran malgré les risques. Il dit ne pas avoir peur. Plusieurs drones ont visé Kiev ces dernières heures. Alerte missile sur toute la ville. Deuxième nuit consécutive difficile pour la capitale ukrainienne. Une attaque qui a fait 15 blessés la nuit dernière. Tout cela n'a pas empêché l'échange de prisonniers le plus important depuis le début du conflit. Échange entre Russie et Ukraine qui doit se terminer ce dimanche. 390 prisonniers ont été échangés ce vendredi, 307 samedi, pour atteindre donc ce dimanche les libérations de 1000 prisonniers dans chaque camp à Moscou. Jean-Didier Revoy.
Natacha, ils nous ont échangé, tout va bien. C'est en ces termes qu'un soldat russe annonce sa libération sur des images diffusées par le ministère russe de la Défense. On y voit aussi les soldats montés dans un autobus, émaciés, les traits tirés mais le regard brillant à l'idée de retrouver leurs proches, ou encore posés pour une photo devant un autobus avec, au vent, un drapeau russe bien sûr, mais aussi un drapeau soviétique. Sans triomphalisme excessif, la presse russe s'est félicitée dans la soirée du retour à Moscou par avion des 307 soldats russes libérés. C'est un résultat concret des accords intervenus à Istanbul la semaine dernière et qui prévoit un échange de prisonniers à hauteur de 1000 contre 1000 pour chacune des parties. Preuve que des canaux de communication existent, même si on ne connaît pas encore la date ni le lieu de la prochaine rencontre des délégations. À noter encore un propos de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou remettrait à Kiev un projet de règlement de crise lorsque cet échange serait terminé, d'ici quelques jours sans doute. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Il a envoyé l'armée dans les rues et dans les prisons pour faire face aux gangs. Durant son premier mandat, le président équatorien Daniel Noboa a prêté serment ce samedi pour son deuxième mandat. Il promet de sauver son pays des mafias de narcotrafiquants. Il a remporté sa deuxième élection en avril face à une candidate de gauche. Grâce à sa ligne dure en matière de sécurité, l'Équateur connaît en début d'année particulièrement meurtrier avec une personne tuée toutes les heures. Déjà 10 jours qu'il se mobilise au Mexique, les enseignants réclament de meilleures conditions de travail. À l'appel de la Coordination nationale mexicaine des travailleurs de l'éducation, ils ont organisé des opérations coup de poing toute la semaine. Marine de la Moissonnière.
Hier, ces enseignants ont bloqué en partie l'aéroport international de Mexico. Mercredi, c'est le palais national, le siège de la présidence qu'ils avaient encerclé, empêchant les journalistes d'assister à la conférence de presse quotidienne de Claudia Sheinbaum. La veille, les manifestants avaient occupé les postes de péage des principales autoroutes qui connectent Mexico aux autres États du pays et avaient permis aux voitures de passer sans payer. Chaque jour, ces enseignants choisissent une nouvelle cible en grève illimitée. Ils occupent également en permanence le Zócalo, la principale place de Mexico. Leur revendication, un doublement de leur salaire et le retour à un système de retraite par répartition géré par l'État. La présidente mexicaine leur a proposé une hausse de 10% de leur salaire et une semaine de vacances supplémentaires. Insuffisant, ont répondu les grévistes qui maintiennent la pression. Claudia Sheinbaum commence à perdre patience. Elle a annulé hier la réunion prévue avec les représentants de la coordination nationale des travailleurs de l'éducation, les renvoyant vers les ministres de l'éducation et de l'intérieur.
Marine de la Moissonnière, ce chiffre impressionnant qui témoigne de la nature répressive de l'ancien régime syrien du tyran Bachar al-Assad. 8 millions de Syriens étaient recherchés par ses services secrets. Ça fait un tiers de la population totale. Une majeure partie a participé au printemps arabe de 2011. Tous étaient accusés de terrorisme. C'est ce qu'ont révélé les nouvelles autorités syriennes ce samedi. 9 djihadistes d'Al-Qaïda tués dans des frappes américaines au sud Yémen, c'est ce qu'indique l'AFP de sources yéménites. C'est un procès important qui reprend ce dimanche en Algérie. Les faits datent du 16 janvier 2013. Un commando d'hommes armés prennent en otage des employés du site pétrolier de Tighen Tourine. Imaginez plus de 800 personnes prises en otage. Il faudra 3 jours à l'armée algérienne pour reprendre le contrôle. Mais le sang coule quand même. 37 otages trouvent alors la mort. Alors, près de 12 ans plus tard, le procès reprend donc ce dimanche pour une semaine à Alger. Marie-Claude Desjeux va témoigner ce dimanche. Depuis 2013, elle cherche à en savoir plus sur les circonstances de la mort de son frère.
Notre quête aujourd'hui, c'est vraiment de récupérer les derniers éléments qui nous manquent, puisque en fait, on ne sait pas où il a été tué. Et ce qui est très étrange, c'est que sur les 40 otages tués, c'est le seul sur lequel on n'a pas d'informations. J'arrive avec des questions, puisque je vais avoir la chance de m'exprimer. Donc je pense ça vraiment comme un peu comme une chance. Donc déjà des questions sur comment un site tel que celui-là, un site d'exploitation majeur, comment n'a-t-il pas été plus protégé? Comment un commando a pu s'infiltrer presque portes ouvertes? Des témoins nous ont raconté qu'il y avait des gens qui étaient infiltrés déjà depuis une semaine, qui circulaient, ce site quand même qui était soi-disant sécurisé. Comment finalement ce commando a finalement attaqué de façon assez tranquille ce site. Certes, ça n'apportera pas grand-chose à la finalité, mais c'est vrai que pour nous, sa famille, c'est important finalement d'avoir reconstitué l'histoire sur sa totalité.
Ils sont venus apporter leur soutien à un gouvernement décrié ces derniers jours. Des centaines de Libyens dans les rues de Tripoli ce samedi, venus en autocar jusqu'à la capitale du pays pour manifester leur appui à ce gouvernement, seule autorité de Libye reconnue par l'ONU. Ce vendredi, d'autres manifestants ont réclamé le départ de cette autorité et la tenue d'élections démocratiques, exaspérées par des violences survenues il y a 10 jours entre milices à Tripoli qui ont fait 8 morts. Ce n'est donc pas finalement seulement un simple accident, c'est désormais un film avec une palme d'or. Un simple accident, c'est le nom du film qui vient d'être primé à Cannes, film signé par le réalisateur iranien Jafar Panahi, lui qui a connu les geôles de la République islamique, et donc récompensé pour ce conte moral, récit de désir de vengeance d'un ancien détenu iranien qui ira jusqu'au pardon. Guillaume Thibault a suivi pour nous cette soirée.
Pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi.
Ému, les yeux embués sous ses lunettes fumées, Jafar Panahi est monté sur scène avec tous ses acteurs et ses proches. Une solidarité affichée et une consécration pour le réalisateur 15 ans après son dernier passage au Festival de Cannes.
Je crois que c'est le moment pour demander à tous les gens, tous les Iraniens avec toutes les opinions, en Iran ou dans le monde, mettons tous les problèmes, toutes les différences à côté. Le plus important en ce moment, c'est notre pays et c'est la liberté de notre pays.
La présidente du jury, Juliette Binoche, engagée dès le début du festival pour revendiquer des droits pour les plus faibles, a justifié la décision de décerner cette palme d'or à Jafar Panahi pour son film « Un simple accident ».
L'art provoque, questionne, bouleverse, par une humanité partagée pour la liberté retrouvée. Une force qui permet de transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle.
Dans un simple accident, un tortionnaire se retrouve kidnappé par ceux qu'il détenait et maltraitait. Jafar Panahi nous interroge ainsi sur la vengeance, sur le pardon. Vu l'état du monde, des questionnements qui dépassent les frontières de l'Iran. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Et Jafar Panahi compte coûte que coûte rentrer avec sa palme d'or en Iran malgré les risques de se voir embastillé à nouveau. Les stars françaises du tennis de table, les frères Lebrun, éliminés en demi-finale du double au championnat du monde à Doha. Ils ont été sortis par l'équipe taïwanaise. C'était les derniers Français en lice dans la compétition. Les numéros 1 mondiaux au classement donc sont médailles de bronze. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'actualité dans 50 minutes avec Arthur Ponchelet.